le 16. Sortie cinéma.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, on a la chance de s'entretenir avec Léa Clermont-Dion pour parler de son plus récent documentaire co-réalisé avec Guylaine Marois. Donc, je vous salue, salope. Salut Léa, ça va bien?
Bonjour, ça va bien.
On te reçoit aujourd'hui pour ce documentaire-là qui est quand même sorti il y a quoi, environ 3 semaines, puis qui connaît un bon succès populaire. J'aimerais ça que tu nous parles en introduction un peu comment est né ce projet-là.
Ben, c'est un projet qui est né, en fait, vraiment d'une écœurantiste des injustices là, vécues par les femmes. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je prenais parole publiquement, notamment durant le mouvement de la grève en 2012, puis il m'arrivait de recevoir des invectives puis des injures que je considérais sexistes parce que ça touchait mon corps, ma sexualité. Puis je me suis rapidement rendu compte, en fait, qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient ça, plein d'autres femmes, et que la nature des insultes en ligne était très forte. Mais j'ai voulu donc finalement faire ce film-là un peu pour investiguer davantage, voir à quel point le phénomène était important. Donc, c'est ça qui a été un peu la genèse. J'ai contacté l'équipe de la Ruelle Film qui faisait du documentaire je m'attendais pas à trouver finalement que c'était pas mal pire que ce que je pensais.
Oui, c'était pire que ce que tu pensais. Puis, d'autant plus que ça fait quand même un petit moment là, justement, que le projet mijote un peu. Puis on sait, ben, en tout cas, je pense que je lisais, là, ça venait de comme début des années 2010, quelque chose comme ça. Puis évidemment, ben là, ça s'est accentué depuis le moment où l'idée était venue justement de faire le documentaire. Comment tu vois ça, justement, cette accentuation-là de la misogynie en ligne?
Bien, en fait, c'est un fléau qui grandit, surtout avec la pandémie qui n'a pas aidé. C'est certain que le fait d'être isolé derrière l'écran fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en détresse. Et qui dit qu'il y a des gens qui sont en détresse, bien dit plus de violence, plus de repli sur soi, plus de haine. Mais il y a aussi quand même de plus en plus de pensées complotistes. Et là, je vais faire le lien avec l'idéologie, je dirais, misogyne. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on vit dans un complot, qu'il existe un complot, finalement, gynécocratique, qu'on appelle, donc, que les femmes mèneraient le monde, puis que ça ferait en sorte qu'on irait à notre perte. Donc, c'est une idéologie misogyne qui voyage, qui est de plus en plus populaire. Et ça, c'est en recrudescence depuis la pandémie, notamment. Les organisations internationales en parlent de plus en plus, là, à quel point c'est un phénomène inquiétant qui prend de l'ampleur.
Mm-hmm. Oui, bien, c'est ça prend de l'ampleur, justement. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais pour le documentaire, vous avez choisi des gens qui ont témoigné. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été difficile d'en trouver ou, justement, il y en avait trop? Il fallait les en choisir.
Il y en avait énormément. Je veux dire, on avait établi une liste d'une centaine de femmes potentielles, mais on a vraiment fait le choix Premièrement, ben, pour faire un film, ça prend... on peut pas non plus raconter toutes les histoires. C'est 90 minutes, alors il fallait choisir. Et on voulait faire une espèce de porte-éventail international. Parce qu'on disait que si on prenait des personnalités publiques au Québec, ben, on banaliserait ici parce que, bon, telle personnalité, on l'aime pas ou elle l'a cherché. Donc, d'amener des gens des États-Unis, de l'Italie, de la France, des femmes qui sont ailleurs. Pour nous, ça amenait une force de frappe plus importante et plus intéressante au film. Donc, c'est comme ça que, je veux dire, on a découvert Laura Boldrini, qui est l'ex-présidente du Parlement italien, qui a eu, je veux dire, des attaques complètement désobligeantes et sexistes de la part d'élus, en fait. D'ailleurs, pas plus tard que ce dimanche, il y a un nouveau gouvernement en Italie qui a été élu puis qui a donné la voix à un de ses cyberagresseurs, Matteo Salvini, qui est chef de la Ligue en Italie. Donc, bref, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce choix-là. On voulait un éventail là, international.
Est-ce que ça a été difficile de les convaincre justement à témoigner? Parce que, je crois pas que les agresseurs vont nécessairement tomber sur le film, mais tu sais, que de s'exposer comme ça dans un documentaire, est-ce que ces femmes-là ont eu peur justement que ça génère encore plus de haine envers elles?
Oui, complètement. Ça a été difficile de les contacter, de les convaincre. Ben d'emblée, comme on a choisi des gens qui venaient d'ailleurs, personne ne nous connaissait. Mm-hmm. Franchement, ces femmes-là n'avaient pas envie de nous parler à la base. Alors, il a fallu redoubler d'efforts pour les convaincre. Guylaine Marois, ma collègue, qui est co-réalisatrice du film, s'est rendue aux États-Unis pour prendre un café avec Kaya Morris, la représentante démocrate au Vermont, juste pour la convaincre. Et Kaya a voulu abandonner parce qu'à un certain moment, elle avait accepté, puis là, ça ne tentait plus parce qu'elle avait peur des répercussions, effectivement. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment tout fait pour avoir Laura Boldrini. Je me suis même rendue à Paris pour donner une conférence au barreau de Paris. Je pensais qu'elle serait là. J'y allais vraiment pour ça, puis finalement, ben, elle n'était pas là. Donc, c'est sûr que ça a été du travail, là. On ne convainc pas non plus la sœur de Mark Zuckerberg à témoigner en criant ciseaux. Je veux dire, c'est compliqué, là. Mm-hmm. C'est compliqué de convaincre ces gens-là. Mais finalement, elles sont contentes du résultat. Puis nous aussi, d'ailleurs. Puis c'est ça. Tant qu'à parler de ce sujet-là, qui d'ailleurs est quand même était largement banalisé, ben, on se disait qu'il fallait y aller avec le meilleur casting qui soit.
Mm-hmm. On le sait, le film est en grande demande dans les écoles, notamment secondaire, cégep, université. Pouvez-vous nous parler du rôle de sensibilisation que pourrait jouer le documentaire, notamment auprès des jeunes?
Bien, en fait, on a mis sur pied un projet qui s'appelle Stop les cyberviolences. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un site internet, stoplescyberviolences.ca. Et donc, éventuellement, il y aura des extraits du film et le film sera éventuellement présenté aux jeunes dans les écoles secondaires. On pense que c'est important, mais on ne laisse pas non plus les jeunes seuls avec ce visionnement-là. On a créé aussi un cours avec des psychologues qui finalement donnent des outils aux enseignants pour aborder les sujets qui sont les sujets sensibles qui sont mentionnés dans le film. On pense que c'est important. On pensait aussi qu'on avait le devoir d'aller plus loin, en fait, avec le projet. Parce qu'on expose une haine et une violence qui est très affligeante. Donc, il faut donner quand même des outils pour déconstruire les discours. Mais on pense que ça fait partie de la solution, hein, montrer ces discours-là, parce que on pense pas qu'on pouvoir convaincre des gens qui sont hyper radicalisés, là. Des fois, c'est difficile de déconstruire la radicalisation et des perspectives plus radicales, comme je dis. Mais prévenir la violence chez les jeunes, c'est possible. Et on pense vraiment que c'est en déconstruisant ces discours-là, puis en leur donnant un esprit critique ou des outils pour se développer un outil critique, qu'on va arriver à changer les choses. Donc, moi, j'invite les gens à aller voir aussi ce site-là parce qu'ils peuvent éventuellement faire des visionnements avec leurs élèves. Ça. Mais la première étape, c'est d'aller voir au cinéma parce qu'il est encore en salle. Il y a un très bon succès en salle. C'est le fun d'y aller aussi en famille. Moi, j'ai vu beaucoup de pères aller voir le film au cinéma avec leurs adolescents. Ça crée des discussions, ça crée des remous. Aller voir le film, c'est aussi un premier geste pour faire avancer les mentalités, je pense.
Le film est quand même reconnu là, pour son aspect choc de la chose. Ça, c'est très cru comme film. Justement, de le montrer à un public un peu plus jeune, c'est pas nécessairement évident. Mais est-ce qu'on est rendu là, justement, dans cette sensibilisation-là, qu'on n'a plus le choix de frapper, de faire un choc pour que le message passe?
Oui, nous, ça a été le pari qu'on a décidé de prendre parce que autrement le message, effectivement, ne passait pas. On banalise, on dit c'est pas important. Donc, nous, on a voulu vraiment faire ressentir l'impact des cyberviolences dans la vie de femmes. Et c'est peut-être pas joyeux, mais faut pas être hypocrite parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Donc, on a décidé de vraiment faire ressentir l'impact de la violence dans la vie de femmes. Donc, c'est sûr que c'est pas un film fait de dentelle. C'est même très inquiétant. Mais en même temps, la réalité, elle est pas nécessairement joyeuse. Donc, nous, on a décidé de pas mettre des lunettes roses puis d'affronter le monde tel qu'il est.
Léa, je te remercie vraiment pour ton temps. On invite nos auditeurs et auditrices à aller visionner Je vous salue, salope, qui est toujours présent ici à la Maison du cinéma, puis qui est présent là, quand même dans plusieurs cinémas, comme tu le mentionnais, partout au Québec. Merci beaucoup, Léa.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.